vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas l'odeur.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On est all to vous. Go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Le vrai sujet de ce film, c'est la séparation, celle qui définit beaucoup d'individus dans notre monde. La séparation et partant la solitude des êtres en France et en Afrique, comme dans ce film, sobre, profond, important. Son titre est un prénom, juste un prénom, Amine, sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde, les amis Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Amine travaille et vit en France depuis 9 ans, séparé de sa femme et de ses 3 enfants au Sénégal. Et derrière ce prénom, beaucoup d'autres destins déracinés. Dans son parcours français, il va rencontrer Gabrielle, c'est vous. Bonjour Emmanuel De Vos.
Bonjour.
Gabrielle, infirmière, divorcée, ensemble, ils vont se réchauffer. Votre douce et belle présence éclaire ce film qui nous fait ressentir vraiment ses destins déchirés. Amine, de Philippe Faucon, sort mercredi prochain. Emmanuel, vous êtes une femme, une actrice et sûrement sensibilisée par la question de la parité dans le cinéma. Des mesures viennent d'être prises à ce propos par Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Nous avons rencontré la cinéaste Céline Sciamma, très impliquée dans ce projet. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma entre Un résistant citoyen, Deux femmes qui s'aiment au Kenya, Bergman ou Cette guerre folle et complexe en Ukraine, c'est parti.
Vous voulez un café?
Merci.
Ils ont quel âge, vos enfants?
15 ans, 12 ans et 10 ans.
Ça doit pas être simple pour eux, la séparation.
Non, je le vois pas grandir. Pendant que je suis là, ma femme vit seule là-bas. Des fois, on a du mal à se retrouver. On est décalé.
Amine est venu du Sénégal pour travailler en France il y a 9 ans. Il a laissé au pays sa femme, Aïcha, pardon, et qu'il voit une ou deux fois par an seulement. Il envoie là-bas de l'argent qui les fait vivre tous. En France, il va rencontrer Gabriel, c'est vous, Emmanuel De Vos, propriétaire de la maison dans laquelle Amine effectue des travaux. Amine, donc, le nouveau film de Philippe Faucon. Avant de vous engager dans cette histoire, Emmanuel, je suppose que vous connaissiez le cinéma de Faucon.
Oui, je me souviens très bien d'avoir vu son premier film Amour et ensuite Sabine, il y a déjà fort longtemps. Et c'est, tout de suite, je sais que c'était un cinéaste qui m'avait beaucoup frappé de par sa manière presque minimaliste et faussement simple de montrer les choses, quoi. Enfin, moi, j'y étais très très sensible. J'étais très heureuse qu'il fasse appel à moi, surtout qu'il travaille rarement avec des acteurs entre guillemets professionnels.
Oui, il a une ligne claire, une filmographie cohérente. Il dépeint à chaque fois les contradictions, les crispations de la société. Il dit qu'il peut pas faire de cinéma sans parler du monde dans lequel il vit.
Oui, absolument. C'est même en racontant des histoires.
Très intime,
ouais. Il arrive vraiment à allier les grands mouvements du monde et l'intime, de vraiment ce que ça fait sur chacun. Ce que les événements malheureux ou heureux font sur les destins.
Derrière Amine, il y a le sort de tous ces travailleurs étrangers isolés en France. Dans le film, ils sont algériens, marocains, maliens, sénégalais. C'est fou, il a vraiment une vision extrêmement large du problème et des deux côtés de leur pays, du côté africain et du côté français.
Absolument, il y a ce que vous disiez tout à l'heure hors micro, le champ et le contre-champ.
Oui.
En employant cette expression typiquement cinématographique, c'est vraiment ça. Donc comme ça, on n'a pas une vision dogmatique ou très, qui pourrait être trop d'un certain point de vue. C'est vraiment, il laisse la chance à tout le monde de s'exprimer. C'est ça qui est beau. Et aux idées je suppose que chacun va voir aussi des choses différentes en voyant ce film.
Ces hommes sont très solitaires, ils se retrouvent au foyer. On va écouter cet extrait, très bel extrait de cet homme qui se fait traduire une lettre.
Tu peux lire ma lettre, s'il te plaît.
Cher frère Madou, tout ce que je peux te dire, il faut prendre du courage pour rester en France. Au Mali, c'est très dur. Si tu reviens au pays, s'en sortir sera toujours un problème. Tout ce que je te demande, c'est de rester encore. Prends courage pour cela. Je demande à Dieu de t'avoir une bonne chance. Je prie pour être entendu de lui. Notre mère te bénit et demande pour toi une longue vie. Au nom de notre fraternité, il faut tout faire pour m'envoyer 200 euros avant la fin de ce mois par Magas Tunkara. Je compte beaucoup sur la somme. Au nom de la famille, merci. Je te quitte par le stylo et non par la pensée. Ta sœur Mamou. Sira, c'est nous. Boubacar te salue avec moi. Je ne sais pas si tu es au courant du décès de Fanta, la fille à Moraka Gandou.
Très sobre, très digne. Emmanuel De Vos, je trouve que Faucon ne juge jamais ses personnages.
À jamais, mais ça, c'est le propre des grands cinéastes. Ouais. Enfin, c'est une règle absolue. Il ne faut pas juger les personnages qu'on va filmer, sinon on est battu d'avance.
Et ceux qu'on incarne aussi.
Ah oui, non, jamais. Non, il faut... Le jugement n'a rien à faire dans le cinéma.
C'est un cinéma d'observation, il n'y a pas de psychologie.
Non, pas du tout. D'ailleurs, j'avais même... je lui demandais des explications de pourquoi Gabriel et Amine, tout d'un coup, vont tomber amoureux. Mais il s'arrangeait pour ne pas me répondre. Il dit, on verra bien. On n'a pas encore tourné la scène où ils se prennent la main. On verra bien. Voilà, c'est comme ça.
Mais est-ce qu'ils tombent vraiment amoureux? Quand je dis qu'ils se réchauffent, je dis, c'est quand même deux solitudes qui se
Oui, croisent. Oui, c'est deux solitudes qui vont se réconforter. C'est pas un amour. D'abord, ils sont trop éloignés. Mais même ça, voilà, ça c'est un point de vue que je trouve intéressant. On n'est pas dans un conte de fées. C'est pas parce que un homme et une femme se rencontrent que ils viennent de milieux tellement différents que même s'il y a un élan, évidemment, ça va être trop compliqué. Ce n'est pas seulement que le regard extérieur des gens autour, des voisins, de l'ex-mari. C'est aussi eux. Ils sont tellement, on est tellement éloignés l'un de l'autre que c'est difficile. Il faut quand même avoir un petit peu de sociologie commune pour pouvoir vivre ensemble, je pense.
Je disais, elle le rencontre et elle rencontre ces travailleurs immigrés, donc à l'occasion des travaux qu'elle effectue chez elle. On va écouter cet extrait où vous leur proposez de prendre une douche.
Madame, qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Je suis infirmière.
Ah, c'est un bon métier.
Pas très reconnu. Mais vous, je sais pas comment vous tenez sans boire avec votre travail.
On est habitué, on mange des fruits le matin et après on tient.
Et vous aussi, vous faites le ramadan ?
Elle le fait pas, mais elle est timide et la honte devant les gens.
Vous savez ce que je vais faire ? Pour celui qui veut boire sans tenter les autres, je vais laisser une bouteille d'eau sur la table. Comme ça, chacun fait ce qu'il veut, c'est libre, ça le regarde.
Merci. Merci, madame.
Vous avez besoin de vous laver, non ? Si vous voulez prendre une douche, c'est pas un problème.
Non, c'est madame.
Sûr ? Vraiment, vous gênez pas, hein ?
C'est gentil, mais c'est M. Verato qui nous ramène avec sa voiture, il peut pas nous attendre. C'est comme ça.
Comme vous voulez.
Au revoir.
À demain.
Au revoir, madame.
Au revoir.
Dites, madame, il ne faut pas proposer aux ouvriers de prendre des douches chez vous comme ça. Ils vont se faire des idées, s'imaginer que vous leur faites des avances. Vous ne savez pas comment ils sont.
Là, on a bien la vision de eux, de vous et de leur employeur.
Oui, mais on a le poids de la religion.
Ouais.
Voilà, en très peu de phrases. Vous voyez comme il dit les choses. Hein. C'est vraiment... il est minimaliste, il fait de la dentelle de Calais... Faucon, il y a quelque chose, je trouve qu'il est le seul à savoir faire ça.
Le scénario est très écrit ?
Oui.
Quand d'improvisation,
même.
Peu d'improvisation sur le tournage ?
Assez peu, oui. Après, il a adapté un peu pour... il y avait quelques acteurs qui ne parlaient pas très bien français. Donc, il adapte, mais non, c'est on dit le texte, oui.
Je disais, derrière Amine, il y a d'autres destins. C'est ça qui est beau dans son film, c'est qu'il fait croiser plein de gens. Et notamment, on croise Fatima.
L'héroïne précédente.
Oui.
C'est, je trouve ça magique. Moi, ça m'a beaucoup troublé, cette idée de faire croiser son héroïne précédente avec son héros actuel. Et donc, parmi ces gens et son ami du foyer, il raconte l'énorme misère sexuelle de ces travailleurs.
Ben oui, voilà, ils ne font que travailler.
Oui.
Ils arrivent, ils vivent dans des algécos, dans des dortoirs, comme des pensionnaires. Enfin, moi, vraiment, puisque je ne suis pas dans le film tout le temps, que j'ai découvert quand j'ai vu, j'ai été... assailli d'informations hein, aussi et de sensations. J'ai vraiment l'impression d'avoir compris quelque chose de la vie de ces gens qui viennent pour faire vivre, tout ce que vous disiez au début, qui viennent travailler en France pour faire vivre des villages entiers.
Ouais.
Hein. C'est l'économie africaine tient grâce à... Enfin, africaine, j'exagère, mais enfin, de certains pays d'Afrique tient vraiment grâce à l'immigration.
Et certains ont deux familles, une de chaque côté, comme cet homme algérien avec sa fille qui est extrêmement choqué par le... parce que son père a été vraiment maltraité à travers son travail pendant toute sa vie. On écoute l'extrait.
Ça fait pas beaucoup, ça. Mais t'as travaillé toute ta vie au noir. T'as vu la retraite que tu vas avoir, là? T'as travaillé toute ta vie, ça compte pas maintenant. Tu t'es fait arnaquer. C'est vrai ou pas ce que je te dis? Je suis née ici, j'ai grandi ici. Et je sais comment ça tourne, leur manège. Toi, tu regardes que ta chaîne nulle du bled. Écoute, je suis venue pour qu'on trouve une solution. Je suis là pour t'aider. On parle de ta retraite. Juste prends conscience des choses, d'accord? Bien sûr que c'est mon problème. Que tu finisses à la rue, c'est mon problème aussi. Ah bon? Tu demandes rien? Tu t'es fait exploiter toute ta vie. C'est pas possible que tu finisses avec rien comme ça. C'est pas possible. Tu comprends? C'est inadmissible. C'est inadmissible tout ça. Ça me rend folle qu'on ait abusé de toi comme ça. On t'a exploité.
Vous êtes fière, Emmanuel Levaux, d'être dans un film comme ça?
Très, oui. Ouais. J'étais contente. Ouais. Non, mais j'y ai pas pensé. Je suis pas vraiment militante hein, comme actrice. Mais quand j'ai vu le film, j'étais déjà contente artistiquement de travailler avec Philippe Faucon. Mais après, je me dis, non, mais rien que cette scène. Ouais. Vous voyez, elle parle français, il parle arabe. Voilà. Déjà, ça montre quelque chose.
On a rencontré Philippe Faucon et on lui a demandé, mais pourquoi vous avez choisi Emmanuel
mais
Devaux?
Pourquoi donc?
Quelle drôle de question!
Quelle drôle d'idée!
Emmanuel Devaux, c'est quelqu'un que j'avais remarqué dans plusieurs films qu'elle a faits pour des qualités de comédienne qui sont les siennes, qui sont assez, de mon point de vue, assez rares et assez remarquables. Et en particulier, je l'ai vue dans un film de Jérôme Bonnel qui s'appelle Le Temps de l'Aventure, où elle m'a beaucoup impressionné parce qu'elle joue une comédienne, donc qui, dans un moment du film, fait un essai de casting.
Oui, c'est moi. Oui, écoute, il faudrait que tu viennes tout de suite. J'étais sur le palier, la porte a claqué et les clés sont à l'intérieur. Non, mais je t'explique, je suis à poil là, chez un monsieur que je connais pas. Comment? Mais comment tu veux que je prenne un taxi? Je suis en culotte et en t-shirt transparent. Mais évidemment que j'ai pas d'argent sur moi. Mais t'es vraiment un salaud, je vais pas rester chez le monsieur pendant 3 heures, il a pas que ça à faire. Ah bon, d'accord. Oui, donc en gros, je me débrouille, quoi. Bon, bah, merci, hein. Non, je fais pas la tête, hein, c'est différent, je t'emmerde.
Je lui ai proposé le scénario et le personnage... Justement parce que j'avais le sentiment qu'elle était assez grande comédienne pour parvenir à faire vivre et exister un personnage comme celui-là, sans forcément qu'on ait constamment en tête le fait qu'il était joué par Emmanuel Devaux. Parce que là, effectivement, il s'agissait d'une proposition sur un terrain qui est un peu... inhabituel pour elle, des partenaires dont elle n'a pas l'habitude, un personnage qu'on ne lui a pas beaucoup proposé. Et je pensais que justement, elle était vraiment en mesure de le faire vivre et exister à l'écran sans que, sans arrêt, on pense qu'il était joué par elle, Emmanuel Devaux. Alors que c'est pas du tout l'idée qu'on a d'elle. On a l'idée que c'est une comédienne qui est très marquée par un certain type de cinéma et de personnages qu'elle a beaucoup joué parce qu'on lui a beaucoup proposé. Et moi, je pensais que justement, elle pouvait être capable de ça. Et je pense que je ne me suis pas trompé parce que je pense que c'est ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire, elle intervient à peu près au milieu de l'histoire. On a rencontré avant elle un certain nombre d'autres personnages qui sont joués par des gens complètement inconnus. Et tout d'un coup, elle entre dans le film. On la reconnaît, évidemment. Elle entre dans le film et puis son personnage participe à l'histoire, et y compris dans ses relations avec des partenaires qui sont tous des inconnus. Et je pense qu'on ne garde pas constamment en tête que le personnage est joué par Emmanuel Devaux parce qu'il existe dans le film. Elle parvient à le faire exister. Et ça, c'est, de mon point de vue, vraiment une des caractéristiques des très grandes comédiennes.
Vous avez introduit du cinéma à l'intérieur du cinéma, mais sans que ça fasse cinéma avec elle, quoi, c'est ça?
Voilà.
Bien dit, Christine Masson.
Non, mais voilà, il vous rend un bel hommage. Mais c'est vrai que c'était compliqué de travailler avec ces noms professionnels, notamment votre partenaire, Mustapha Mbengue.
Oui, surtout que Mustapha parle très mal le français pour un Sénégalais, puisque finalement, il est plus romain que parisien.
Il
habite depuis 20 ans à Rome. C'est un musicien italien, presque. Mais il faut s'adapter, ouais. Mais en s'adaptant, on s'adapte aussi au film et à ce que Philippe voulait raconter. C'est pas non plus anodin. Rien n'est fait, rien, tout est quand même calculé, je pense, chez Philippe.
Mais Mustapha a un parcours à peu près similaire à celui d'Amine, non ?
Oui. En Italie, oui.
Oui, il vous a raconté un petit peu.
Mais bon, il a pas d'enfants au Sénégal. Ses filles habitent à Rome. Bon, c'est pas exactement le même profil quand même. Puis les musiciens, il a joué dans des opéras à Rome. C'est comme ça que Philippe l'a découvert d'ailleurs. Voilà. Après, la cause des migrants lui tient vraiment à cœur, oui.
De l'autre côté, donc, en Afrique, il y a sa femme qui est jouée par cette marraine.
Merveilleuse.
Directrice, oui.
Mais ça, là aussi, c'est extrêmement bien étudié parce que cette femme est seule là-bas et va subir la pression familiale, amicale, religieuse.
Voilà. Le poids du religieux qui est de plus en plus prégnant là-bas. Voilà la vision des femmes qui est totalement archaïque dans ce pays.
En fait, c'est un film aussi sur les solitudes, je disais.
Un film très féministe, hein, c'est un film extrêmement féministe.
Vous incarnez une solitude urbaine française.
Oui, voilà, et Merem incarne voilà la femme qui refuse de mettre un voile, qui refuse qu'on l'empêche de faire ce qu'elle veut, et elle a du mal, et surtout en l'absence de son mari.
Votre relation, tous les deux, est vraiment simple et douce, et on pense pas du tout à une trahison de lui vis-à-vis de sa femme en Afrique.
Non, pas du tout. Non, en fait, je pense que il est coupé en deux, donc voilà, c'est comme ça, quoi. Enfin, ça serait, il y a pas de morale à se dire, oh là là, c'est mal ce qu'il fait. Je pense qu'il peut, voilà, ces gens ont des vies divisées. Donc bon, voilà, tant mieux s'il peut prendre un peu de chaleur auprès d'une infirmière.
Il n'y a pas de mal à se faire du bien, on dirait l'autre.
Vous avez découvert le film à Cannes, parce qu'il était présenté là-bas. Mm-hmm. Et donc c'est fou d'avoir une petite partie du film et de découvrir l'entièreté sur le grand écran.
Moi j'aime beaucoup ça en général. Ouais, je trouve ça très agréable d'être surpris par... Voilà, on a lu un scénario et on découvre un film sans être tout le temps omnubilé par sa propre personne. Parce que quand on voit un film pour la première fois dans lequel on joue, forcément, on est un petit peu axé sur nous.
Amine de
on dit juste qu'il y a une intégrale Philippe Faucon qui existe en DVD avec un très beau livret. Et on a envie de revoir, je trouve, les films de Philippe Faucon à l'aune de ce Amine, là aussi.
Amine qui sort mercredi prochain. Maintenant, nous allons écouter la grande Agnès Varda. C'était sur les marches de Cannes cette année.
82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. En 71 années de ce festival, renommé, le jury a été présidé par deux femmes seulement. La prestigieuse Palme d'Or a été décernée à 71 réalisateurs, trop nombreux pour être cités ici un par un, mais seulement deux réalisatrices, Jane Campion, qui est avec nous en pensée, et moi, Agnès Varda. Une remarque, chère Kate, la palme de Jane était ex aequo et la mienne honoraire. Ces chiffres sont éloquents, irréfutables. Nous demandons l'équité et la réelle diversité dans nos environnements professionnels. Nous désirons travailler main dans la main avec nos collègues hommes pour prendre nos responsabilités et créer derrière et devant la caméra des images dont nous croyons fermement qu'elles permettent les prises de conscience.
Oui, comme le dit Agnès Varda, les chiffres sont éloquents. Les réalisatrices en France ont payé 42% de moins que les réalisateurs. Un film sur quatre est réalisé par une femme, mais leurs budgets sont deux fois moins importants que celui accordé aux hommes. Sans parler de la place faite aux femmes à des postes stratégiques. Direction de la photo, du son, du montage, des décors, pour toutes ces raisons. Et à l'issue des assises de la parité la semaine dernière, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, a annoncé que dès l'an prochain, les films dont les équipes sont exemplaires en matière de parité, au moins 4 postes importants donc détenus par des femmes, eh bien elles auront droit à 15% d'aide supplémentaire, ces films, sur le soutien du CNC mobilisé par la production. Une incitation financière, c'est un début. Nous avons rencontré une réalisatrice très impliquée dans ce projet, c'est Céline Sciamma. Bonjour Céline.
Bonjour.
Tous les articles qui évoquent la parité évoquent tous comme point d'ancrage l'affaire Weinstein. J'imagine que le réveil a commencé avant et surtout que cette affaire a servi de révélateur.
Oui, ça a été un moment. Et en fait, ça a été un moment à plusieurs titres. C'est un moment dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire le fait divers, le fait judiciaire et puis et le mouvement d'écoute de la parole des femmes à la faveur de leur expression sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu ce moment-là, mais il y a aussi ce qui ne s'est pas passé, c'est-à-dire la façon dont la séquence, notamment en France, n'a pas été politisée, s'est contentée de soudainement d'être sur une espèce de bataille culturelle ou de réflexion culturelle sur la question de la morale, sur la question d'une forme de danger, d'une inquiétude sur la liberté de création, et pas du tout comme un moment politique. Et du coup, c'est ce qui nous, on s'est fédéré en collectif à la faveur de cette forme d'espoir et puis aussi surtout de cette déception. Et en décidant justement de désexualiser cette séquence et de la politiser au bon endroit, qui était un endroit de la question de la répartition du pouvoir, de la domination et de l'action de la justice, de l'égalité. Donc la séquence politique ouverte par l'affaire Weinstein, elle a permis finalement de mener au bout des combats qui étaient en fait menés depuis des années.
Mais est-ce que la seule question qui vaille, c'est pas l'égalité salariale, qui permet de ne pas rentrer dans les problèmes artistiques notamment? Or, on n'a pas l'impression quand même que cette question-là est au centre des réflexions actuelles.
Ah bah elle est totalement au cœur de notre réflexion. La ministre, elle met en place quand même un système de bonus, c'est-à-dire des mesures qui sont des mesures correctrices d'inégalité, qui sont complètement centré sur les questions salariales et les questions d'accès à l'emploi et d'opportunités.
L'égalité salariale, c'est un même poste est payé de façon identique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des écarts de salaire énormes. Je n'ai pas l'impression quand même que ça soit corrigé et qu'il y ait des bonus liés au fait qu'un producteur dira « Ben voilà, on paye de façon identique, à budget du film égal, pareillement un homme et une femme. »
Ben si, c'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire qu'en réalité, l'inégalité salariale dans le cinéma français, elle se fait pas au cœur des films. C'est pas au cœur d'un même film qu'il y a l'inégalité salariale. Sauf entre les acteurs et les actrices. Ou sauf sur à poste où il y aurait un chef opérateur star. Mais à chaque fois, il y a un seul chef, il y a un chef opérateur, ou une chef opératrice par film. Enfin, c'est plutôt entre les films qu'il y a l'inégalité, et on constate que ces inégalités, elles sont corrélées, les inégalités salariales sur les films, elles sont corrélées au financement des films. Voilà, il y a une différence d'écart de 42% entre les salaires des réalisateurs et des réalisatrices. C'est parce que il y a une différence d'écart moyenne de budget, de différence de financement de 25% entre les hommes et les femmes. Et il se trouve que les femmes travaillent, les femmes techniciennes travaillent plus massivement, enfin sont donc plus spontanément recrutées par des réalisatrices femmes. Donc il y a une espèce de boucle de la précarité des films qui ensuite engage la précarité des techniciennes, qui crée ces différences. Et on constate qu'en plus, les femmes travaillent plus massivement à la création, c'est-à-dire qu'elles sont sur des films qui sont du cinéma indépendant, voilà, aussi, y compris parce qu'elles n'accèdent pas à un cinéma de marché, ce qui est inquiétant. Ce serait une chose sur laquelle on va travailler. Mais comme elles travaillent au cinéma indépendant, des mesures d'ailleurs correctrices d'inégalité en faveur des salaires, mais c'est aussi des mesures de lutte pour la défense de la création, des libertés de création. Donc tout ça va ensemble, mais c'est complètement... on est uniquement sur ces questions-là.
Au-delà des chiffres, ça va aussi changer les représentations au cinéma, peut-être, d'avoir des femmes à ces postes clés.
Ben oui, on espère que ça va... Si vous voulez, c'est juste que... c'est toujours les mêmes qui racontent les histoires, quoi. Donc, et c'est un danger. C'est un danger à plus d'un titre. C'est un danger pour l'atmosphère ambiante. C'est un danger pour l'industrie aussi. Parce qu'on voit bien que on peut possiblement se couper de la réalité de son public, donc de son marché. Et puis c'est un danger aussi... pour moi, la fiction et le cinéma, qui est un art populaire, elle est dans la responsabilité de représenter de façon inventive, juste. Parce qu'effectivement, moi, j'essaie d'être centrée sur des questions qui sont désengagées de l'idée que les femmes apporteraient ci ou ça, parce que j'ai même pas envie de pointer du doigt ce qu'elles peuvent apporter, toutes sortes de choses. Moi, pour moi, elles peuvent surtout révolutionner la représentation de la masculinité au cinéma, avant celle de la féminité. Parce que c'est quand même, la masculinité, c'est quand même très pauvre, quoi, ce qu'on vit, quoi, dans la représentation des hommes. C'est quand même très, très répétitif, très schématique. Moi, à chaque fois, on me dit, vous avez amené des beaux personnages de femmes. Oui, bon, ça, c'est la moindre des choses. Mais enfin, les personnages des garçons, faut un petit peu s'en soucier, quoi. Voilà, moi, par exemple, je trouve que c'est un chantier qui m'intéresse plus, sur lequel j'ai plus d'attentes que la représentation du... Qu'est-ce que les femmes peuvent amener aux femmes, vous voyez. La chose où je trouve qu'il faut être vigilant, à l'envers, c'est la contre-réforme. Attention à la contre-réforme, quoi. Parce que le côté, mais la liberté de création va être en danger, comme si on était en train de réifier, de dire, alors il faut que tout le monde soit représenté, à part égale. Non, il ne s'agit pas du tout de ça, quoi. Justement, moi, j'ai envie de dire, est-on réellement libre de créer quand on voit les choses qui se répètent, la peu d'inventivité, quand on dit qu'on va être des mères la morale. Bon, regardons la sexualité dans le cinéma français. Est-elle excitante, est-elle inventive, est-elle érotique? Est-ce qu'elle n'est pas à chaque fois une espèce de passage obligé? C'est quand la dernière fois que vous avez été ému ou excité par une scène de sexe dans le cinéma français? Moi, je m'en souviens, je vois qui les invente et je vois qui les fait, ces scènes-là, dans les 10 dernières années. Et je vous invite à y réfléchir, à voir qui les fait et comment, et combien elles nous manquent. Voilà, moi je suis enthousiaste aussi dans la question de la reprise de qui prend la parole sur cette invention. Justement, soyons un peu plus libres de créer, quoi. Et toute cette inquiétude qui se cristallise autour de ça, les conservatrices, y compris conservatrices, sur les questions qu'elles prétendent défendre.
Avec à terme l'idée de changer le cinéma aussi, de changer les...
Mais bien sûr, moi je quand on voit qui fait les films, on se ressemble tous, quoi. Et d'où on vient, et encore, moi je suis une femme homosexuelle de la périphérie parisienne, donc, mais bon, quand même, il y a quand même une homogénéité de ce qu'on propose, et cette homogénéité, elle est un problème aussi, quoi. C'est pas juste, si vous voulez, c'est pas par souci d'équilibre. On veut qu'il y ait d'autres voix qui puissent prendre la parole. C'est pas par souci d'équilibre, c'est par souci de déséquilibre. Vous voyez, c'est par souci de... C'est plus punk que l'idée vendue par... Enfin, l'idée telle qu'elle est caricaturée par ses détracteurs, hein, qui voudraient que chacun soit représenté et le droit à parler de lui-même, que ce serait des formes de censure des paroles des autres, etc. C'est beaucoup plus punk, c'est beaucoup plus destructeur que ça, au final.
Emmanuel De Vos, vous avez écouté Céline Sciamma. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? D'abord, sur le fait de politiser le propos.
Non, ça c'est bien, ouais. Ça c'est important parce que à un moment, ça tournait que autour des histoires de fesses du cinéma, ou des histoires de est-ce qu'on a subi telle ou telle pression.
On vous posait beaucoup la question.
Ah oui, mais à chaque fois, enfin toute l'année dernière, c'était ça. J'ai dit oui, d'accord, on peut poser la question. Enfin, il faut élever le débat. C'est important, effectivement. S'il y avait eu des histoires des hommes à faire tomber, on les aurait fait tomber. Mais personne n'est tombé.
Hein. Mais non, personne n'est tombé, justement.
Parce qu'il y en a. Mais tout le monde dit il y en a, mais on en parle, on dit mais qui? Il y a un ou deux noms qui sortent, mais ça n'a pas l'air non plus d'être des choses. Et c'est pas Weinstein, quoi. C'est vraiment, on est loin. Enfin, peut-être, hein.
On est loin,
je vis quand même dans un milieu de cinéma. Je connais pas tout le monde. Mais je demande à mes copines, là où il y a des choses à dire, c'est quand j'ai demandé à ma maquilleuse, aux coiffeuses, aux stagiaires. Là, oui. Mais là, même dans le théâtre,
là,
par exemple.
Là, oui, c'est-à-dire.
Mais là, il y a des pressions.
Oui.
Et parce qu'une coiffeuse, elle a moins de pouvoir qu'une actrice sur un plateau. Donc si l'acteur principal commence à lui faire des blagues lourdes tous les jours, elle va pas pouvoir s'en défaire. Mais c'est des blagues lourdes. Après j'ai pas eu d'exemple de viol ou de, enfin peut-être, hein, je ne sais pas, de harcèlement. Il y en a sûrement. Mais par exemple, Yasmina Reza me raconte qu'elle a rendez-vous avec le grand directeur du théâtre de l'Odéon il y a quelques années, qui lui donne du macocotte. Écoute, on va pas pouvoir jouer ta pièce, macocotte, du macocotte tout le temps. À Yasmina Reza, qui est quand même une de nos grandes auteurs dramatiques françaises. Non, mais il y a des comportements. Voilà. Bon, bref. À part ça, donc il faut politiser le débat.
Vous êtes d'accord avec les mesures qui ont été annoncées sur ces quotas?
Oui, alors les quotas, au départ, moi, je trouvais, instinctivement, j'aime pas ça, mais ça marche. Donc, il faut taire ses a priori et ça marche. J'ai un exemple très... à partir du moment où on commence à voir des femmes un peu à des postes clés, mais il y en a un... Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de films avec des femmes et j'ai fait beaucoup de films avec des chefs opératrices et avec des premières assistantes et des chefs d'écho. Enfin, dans mon milieu de cinéma, c'est presque mixte. Mais par exemple, France Inter, il y a quelques années, il y avait très peu de voix de femmes. Maintenant, on a Fabienne Sintès qui est arrivée au téléphone sonne, que j'entends depuis que j'ai 4 ans et demi à peu près. C'est complètement mixte. Moi, j'ai senti le changement de cette radio, quand même, une des plus écoutées de France. C'est très, très important. Quand vous avez sur un plateau télé et que les intervenants sont politiques, par exemple, sont moitié femmes, moitié hommes, ça, c'est très important pour habituer les gens et les plus jeunes à voir une parité. Ouais. Donc, pourquoi pas donner plus d'argent à un film qui va engager les quatre postes importants, chef-op, chef costume, montage, il y a beaucoup de monteuses, hein. beaucoup.
Oui. Mais en revanche, on vous paiera toujours moins pour l'instant qu'un acteur
Moi, non. Ah bah oui, je suis sûre.
Production égale, enfin à budget égal d'un film, vous serez payé la même somme que...
Encore une fois, moi je travaille dans une économie de cinéma qui est particulière. Oui. Sur Amine, je suis plus payée que Mustapha. Je suis autant payée que Amalric quand je tourne avec des pluchins, par exemple. On a le même agent, donc je le sais.
Il n'y aurait pas intérêt.
Non, mais voilà.
Oui, d'accord.
Mais je pense que là, on parle de gros films. Oui, c'est pour ça quand ils disent les réalisatrices ont moins de budget, mais ce ne sont pas des réalisatrices qui réalisent. Les Tuches, des gros films comme ça, c'est eux qui ont beaucoup d'argent.
Mais beaucoup disent que quand elles demandent du budget, elles ont beaucoup de mal à en obtenir. Hein.
Oui, mais alors, voilà, il y a eu une madame Canal+, qui donnait l'argent au film.
Nathalie Coste-Cerdan.
Voilà, ouais. Pendant très longtemps.
Il y a beaucoup de FMIS.
Alors, là où il faudrait peut-être changer les choses, et ce que a dit Audiard à Venise, c'est par exemple dans les sélections.
Oui, alors, voilà.
Qui sélectionne Est-ce qu'il y a des... Mais enfin, je ne pense pas que Thierry Frémaux soit sot à ce point pour s'il voit un très beau film réalisé... réalisatrice, je sais pas, kényane ou indienne, il ne va pas le sélectionner parce que c'est une femme.
Certes, mais vous ne trouvez pas que des regards féminins à cette...
Voilà.
Pour regarder quand même, à la base des sélections, c'est important quand même.
Il faudrait... ça, je pense que c'est obligatoire. Maintenant, il faudrait un homme, une femme pour sélectionner dans tous les festivals. Parce que c'est à des endroits comme ça, ça changerait les choses. Ça, c'est sûr.
En revanche, vous êtes contre la discrimination positive pour la sélection des films. On va pas faire des parités 50-50.
Non, il faudrait même faire, moi j'ai pensé, faire un festival du film non nommé. Vous voyez, où on ne connaîtrait pas ni le sexe, ni le nom de la personne qui a réalisé.
On aurait des belles surprises, je crois.
Hein, et même par exemple, les sélectionneurs devraient recevoir des films muets au niveau du générique.
Ouais.
On leur présente des films, et voilà, on verrait bien, ça serait intéressant
très
de le
intéressant,
faire.
Très intéressant, certainement. Ouais.
On se retrouve pour les sorties. Merci Manuel Levous, vous restez avec nous, bien sûr. On se retrouve pour les sorties après. Jeanne Haddad, Mutat.
Feel the vibration waving through me. Another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How modulate now?
Les sorties de la semaine, on va commencer par Rafiki Laurent de Wanuri Caillou. Deux jeunes femmes s'aiment au Kenya, un pays qui juge illégal les relations LGBT, pas seulement la loi, mais la famille, l'entourage, les amis, au nom de la religion, des coutumes et surtout des valeurs ultra-machistes. Voilà ce que ce film raconte et montre, le destin fermé de Kenna et Ziki. C'est courageux vraiment d'aborder un tel sujet là-bas. C'est original de trouver une autre forme pop et colorée pour le raconter. Cette option artistique marche dans la première partie du film, celle de la séduction, mais ne fonctionne plus par la suite et nous empêche de ressentir la vraie douleur que représente un amour interdit. Le scénario, lui, est cousu de fil rose, mièvre par moments, maladroit et finalement très prévisible, même si la démarche reste très sincère.
Ben voilà, on est un peu empêché de parler, parce que objectivement, le scénario est convenu et la réalisation plate. Alors on devrait dire, bon ben, on arrête là, quoi, on ferme le banc. Et en même temps, le sujet est tel que, effectivement, on se dit non, il faut, en quelque sorte, aider ce film qui n'est pas diffusé dans son propre pays. Donc ça, c'est quand même un cas de censure extraordinaire. Mmh. Donc on a envie de le défendre et de dire, voilà, aux auditeurs, ben, allez le voir, quoi qu'il en soit, parce que le message est le bon, en quelque sorte. Après, la façon dont ce message est fait, ben, il nous laisse un peu sur notre faim artistique. Ça, c'est sûr.
Autre film politique, Donbass, du réalisateur ukrainien Sergueï Losnitsa. Le Donbass est une région de l'est de l'Ukraine dans laquelle se déroule une guerre hybride mêlant conflits armés, ouverts, crimes et saccages. Une guerre très complexe que Losnitsa évoque à travers 13 épisodes. Inspiré d'événements réels, une réalité complètement folle. D'un côté, les forces gouvernementales soutenues par les mafias locales, de l'autre, les séparatistes pro-russes aidés par d'autres gangs et par les soldats de Poutine. Difficile de les distinguer, mais pas si important dans la mesure où la confusion, le chaos règne. Tous les épisodes ne sont pas convaincants, certains trop longs, trop abscons, restent quand même des séquences extrêmement puissantes, comme ce partisan ukrainien agressé, humilié en pleine rue, ou cet homme qui veut récupérer sa voiture qui a été réquisitionnée, ou ces jeunes soldats à la frontière, sans parler, Laurent, de ces figurants engagés comme témoins dans un faux attentat. C'est la mise en abîme du film, mettre en scène du faux qui veut paraître vrai et en faire du cinéma.
Oui, enfin moi j'ai rien compris quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas un master en jambon, comme on dit chez Delépine et Carver, ni un master en relations internationales. Vraiment, je n'ai rien compris.
Vous avez compris que c'était un chaos total.
Ah ben voilà. Alors oui, d'accord, mais ça s'appelle Donbass. C'est quand même situé géographiquement, historiquement, politiquement, avec des choses très très importantes, la Russie, etc. Bon, alors c'est vrai, tout va mal. Le communautarisme est exacerbé, le nationalisme aussi. Tout est violent, tout est dur.
Tout est vrai.
Alors oui, tout est vrai, mais seulement il n'y a pas de contrepoint. Il y a pas de. On se dit qu'on connaît si peu cette situation qu'au bout d'un moment, moi j'ai du mal à faire la part des choses et à me dire, bon, est-ce que je dois recevoir tout ça de façon très imposée en pleine gueule, mais j'ai pas le recul. Et ça, au bout d'un moment, à force de me parler de la réalité, ça me pose quand même un problème. Voilà.
Moi j'ai pas de recul parce qu'on est en plein dans cette actualité.
Ouais, on peut avoir du recul.
L'ombre d'Émilie de Paul Feig. Stéphanie cherche à découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa meilleure amie, mais une femme peut en cacher une autre.
Oh oui, le point de départ, une femme disparaît. Mon Dieu, comme c'est original. On est effectivement chez Hitchcock, chez n'importe qui traite ce genre de choses. Alors le problème, c'est que le programme se déroule dans une incroyable mollesse à partir de ce début de polar absolument convenu, avec un lot d'invraisemblances scénaristiques qui la dépasse pour moi l'entendement. En tous les cas, j'ai trouvé franchement ça y allait très très fort dans l'invraisemblable et dans le non suivi. Scénaristiquement, reste, je le dis en face d'Emmanuel DeVos, une Anne Kendrick, l'héroïne, c'est-à-dire la blogueuse qui fait des cupcakes et qui enquête en même temps. Elle est assez extraordinaire. Mais est-ce que ça suffit pour aller voir un film? Je n'en suis pas certain.
Le vent tourne de Bettina Oberli, l'histoire de ce jeune couple de paysans, Pauline Mélanie Thierry et Alex et Pierre Deladonchamp, utopistes, sincères, naïfs et soucieux de vivre uniquement pour et par la nature, de vraies convictions écolo. L'arrivée d'un ingénieur venu installer une éolienne va bouleverser ce bel équilibre. De quoi parle-t-on ici? D'un choix de société? Mais alors, fallut-il l'aborder jusqu'au bout? On se rappelle de petits paysans qui traitaient à fond son sujet. S'agit-il d'une histoire d'amour? Mais que vient-elle faire là? De la prise de conscience d'une femme, voilà un troisième sujet, sans que rien ne soit vraiment abordé, mais survolé au-delà de cette belle campagne. Et encore, j'ai pas évoqué la jeune russe que le couple héberge, jeune habitante de Tchernobyl.
Oui, on peut pas s'empêcher de penser au film d'Hubert Charuel, effectivement, Petit Paysan, parce que c'est un, hélas, il faut en faire la comparaison, et c'est à tourne au grand désavantage de ce vent tourne qu'on pourrait effectivement résumer. Samuel, installateur d'éoliennes, bouscule Pauline, la parisienne écolo. Bon, alors à partir de ce moment-là, évidemment, ça tourne un peu à la Madame Bovary locale, mais le film ne choisit pas, et c'est quand même un petit peu dommage. Et là aussi, pardon de cette finale qui ressemble à la précédente, mais reste Mélanie Thierry. Exact. Dont décidément, on a vraiment envie de la voir dans des bons films comme La Douleur cette année, et pas forcément dans Le Vent Tourne.
Et Pierre de La Donchamp aussi, qui est très bien.
Pierre de La Donchamp, bien sûr.
Ouais, vraiment.
L'installateur d'éoliennes, rappelons-le.
Mais non, c'est pas lui,
l'installateur. Non, c'est pas lui, pardon. Lui,
Laurent... Laurent a pas vu le film.
J'ai vu. Relisez mon papier. Bref, ils sont très bons tous les deux. Voilà. Oui. L'éolienne aussi.
Libre de Michel Touesca, c'est un documentaire sur Cédric Herrous, agriculteur, qui un jour a croisé la route des réfugiés et qui a décidé avec d'autres habitants de la vallée de les accueillir.
Oui, c'est un documentaire qui prend clairement le parti du héros qu'il montre. Voilà. Alors c'est sa force et sa limite. C'est-à-dire que c'est formidable parce qu'évidemment Cédric Herrous est une sorte de saint laïque, de héros actuel. On le suit dans ses moindres déplacements, avec un filmage d'ailleurs qui est en dessous de tout, on peut le dire, mais c'est pas grave, c'est tenu comme ça. Et évidemment, au bout d'un moment, on a envie de se dire bon, ben il y aurait un petit peu de contrepoint, il y aurait un petit peu d'interrogation, ça serait pas si mal que ça. Mais en même temps, on a envie d'être à ses côtés. On réfléchit. Une autre fois sur effectivement la question de l'immigration, la réception des immigrés, etc. Voilà, c'est pas, le film ne traite pas de ça, il traite du héros, d'un héros moderne actuel. Voilà.
Bergman, Une année dans une vie, après le documentaire de Margaret von Trotta, celui-là est signé Jen Magnusson, qui a d'ailleurs déjà travaillé sur Bergman. Et là, elle se focalise sur 1957, à l'aube de ses 40 ans. Bergman entre dans une période de productivité sans précédent. Cette année-là, il tourne pas moins de 3 films, mais en scène 4 pièces de théâtre, et conjugue travail acharné avec une vie de famille tumultueuse.
Ben c'est génial, parce qu'il résiste à tout, Bergman. Ça fait le deuxième documentaire qu'on lui consacre, et l'énigme n'est toujours pas levée. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils essayent de tout, comme Trotta, on essaye de par tous les côtés, l'intime, le très intime, le psychanalytique, etc. Et ça ne porte à rien, c'est-à-dire qu'on ne comprend toujours pas l'énigme Bergman, et c'est très très bien. On ira donc revoir et voir les films de Bergman, qui sont actuellement en salle sur DVD, et bientôt la Cinémathèque.
On a envoyé un message à Arnaud Desplechin qui ne pouvait pas venir. On lui a demandé de nous parler de Bergman. Et voilà, je vais vous lire sa réponse, Emmanuel De Vos. Sachez combien j'aime Bergman et je pense à la carnation d'Emmanuel De Vos. Une force inouïe, une vulnérabilité inouïe. Avant de la rencontrer, je n'avais vu cela qu'une fois au cinéma et c'était le visage de Liv Ullmann. C'est vous dire, Emmanuel et Bergman, c'est tout pour moi. C'est pour eux, vivante et mort, que je fais des films.
Merci Arnaud. Non, c'est très... Ben voilà.
Le silence, comme dirait Bergman.
Le silence.
C'est ce qu'il vaut.
On a un petit peu de temps encore pour donner, pour faire deux cadeaux.
Deux cadeaux, le premier...
Ouais, c'est pour ça qu'on vient vous voir dans votre émission, c'est pour avoir des cadeaux.
Le premier DVD, c'est Festen de Thomas Vinterberg, 1994, génial. Qui ressort en DVD chez Dorgan Film, avec en bonus 2 courts-métrages Thomas Vinterberg, et puis quelque chose sur Le Dogme, avec Lars von Trier, Wim Wenders et Jean-Marc Barr, notamment.
On a le temps, on va écouter un tout petit extrait.
Cool. Moment.
Voilà l'extrait.
Mais oui, mais
tout essentiel.
Non, mais Emmanuel, quand on entend ça, on pense à... quand quelqu'un tape sur un verre, on pense tout de suite à Festen, non?
Ah oui. Oui, bien sûr,
Christine. Non, c'est vrai, c'est le début de la dénonciation.
Oui, oui, le début de la grande dénonciation.
C'est le plus grand film du dog, on peut le dire.
Moi, j'adore Thomas Vinterberg.
Bon, et ben voilà, beau cadeau, chez Dorian Film. Autre DVD, Foxtrot, qui est sorti cette année, de Samuel Maoz, un film israélien que vous n'avez pas vu, manifestement.
Ah,
et ben on est très très heureux, très heureux de vous l'offrir, parce que c'est un cinéaste très intéressant, ça paraît chez Blackout. Il y a un entretien en bonus avec Ariel Schweitzer, notre collègue confrère que nous avions reçu à ce micro pour parler du film. Et il y a notamment une actrice extraordinaire franco-israélienne, Sarah Adler, voilà.
Ah mais oui, que je connais très bien, j'ai tourné avec elle.
Mais vous avez tourné avec elle.
Dans quoi?
Dans Pourquoi tu pleures, de Katia Lefkovic.
Très joli film, je trouve.
Merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu ce matin.
Pardon, le festival de Namur a lieu, on le dit, jusqu'au 5 octobre, avec notamment Pierre Salvadori dans une leçon de scénario et bien d'autres surprises et découvertes.
Et moi, je rappelle que Amine, ce grand film signé Philippe Faucon, important, profond, sort mercredi prochain. Et d'ailleurs, c'est Philippe Faucon qui signe notre générique. Au revoir.
Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Rebecca de Nantes s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Xavier Pestugia. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Philippe Faucon, j'y étais avec Emmanuel DeVos.